Puis, dans les versets 2 à 8, revient 14 fois le refrain « Un tambour, un tambour, un tambour, un tambour, un tambour, un tambour. » C'est comme les coups d'une horloge marquant le temps qui passe, inlassablement, inexorablement, au fil des heures et des jours. Précisons cependant que la comparaison avec l'horloge est anachronique, il n'y en avait pas à l'époque du Qohélète. Les moments de la vie se succèdent, différents les uns des autres, contraires les uns aux autres. On a effectivement dans ce texte 14 paires d'activités contraires. 14, c'est 2 fois 7. Et 7 est le chiffre de la totalité. Activités sont mentionnées à titre typique de toutes les activités qui occupent l'être humain pendant sa vie. Il sera question de la vie, de diverses activités humaines, de la vie affective, de l'usage de la parole aussi. Et la conclusion de ce poème vient au verset 9. Elle est négative. Quel avantage celui qui œuvre retire-t-il de son pénible labeur? Elle est négative. Et à mon avis, ça exclut une interprétation positive de ce texte. Par exemple, l'interprétation selon laquelle le Qohélète ferait un simple constat pragmatique pour dire qu'il y a un moment approprié pour chaque chose dans la vie. Non, je crois que c'est quelque chose de plus douloureux, de plus négatif qu'il veut nous dire. Alors, verset 2, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Dans certaines traductions, on a « il y a un temps pour naître et un temps pour mourir ». Mais le sens du verbe hébreu est bien le sens d'enfanter. Alors il y a là un paradoxe. Nous sommes capables de transmettre la vie, de donner la vie, d'enfanter. Mais nous ne sommes pas capables de garder la vie pour nous-mêmes. Car un jour, il faut mourir. La vie a une fin. Elle est caractérisée par un manque de permanence. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Planter, arracher sont des actes contraires. Un plant que l'on a mis en terre finit par mourir et l'on doit arracher pour en planter un autre. Il faut parfois défaire ce que l'on a fait pour recommencer. Là encore, un manque de permanence s'attache à nos activités, à nos réalisations. Il y a un temps pour abattre et un temps pour soigner. Alors le premier verbe s'emploie pour l'abattage d'un animal ou pour la mise à mort violente d'êtres humains. Le Qohélète ne précise pas à quoi il pense ici, mais comme ça vient juste après la mention d'une activité agricole, planter, arracher le plant, on peut penser ici au traitement que l'on dispense aux animaux. Il y a un temps pour soigner l'animal malade ou blessé, un temps pour prodiguer ses soins aux petits nouveau-nés. Il y a un temps pour abattre l'animal, soit parce qu'il est trop malade ou trop vieux, soit que le moment est venu d'en tirer la viande. Il y a aussi un temps pour la chasse. On est donc conduit par là à deux activités contraires, abattre et soigner. On aura soigné la bête pour éviter de la perdre, ce qui aura pu amener son propriétaire à s'attacher à elle, et cela lui rendra peut-être quelque peu douloureux de l'abattre. Le moment venu, Fernandel a fait un film sur ce thème où il joue le rôle d'un serviteur qui est dans un haras et s'est attaché à un cheval avec lequel il a fait bien des choses et puis le cheval a vieilli et le propriétaire a décidé de l'envoyer aux arènes pour être massacré par un taureau. Et alors le personnage que joue Fernandel eh bien, s'enfuit avec le cheval et le conduit dans la Camargue, essaye de le faire échapper à ce sort terrible parce qu'il est trop attaché à cet animal. Verset 3, toujours, il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. Certaines choses que l'on a construites finissent par s'abîmer, par se dégrader ou par perdre de leur utilité. et il faut les démolir pour reconstruire. Parfois, il faut démolir quelque chose d'ancien avant de construire quelque chose de plus adapté. Et donc, un manque de permanence s'attache à ce qui a été réalisé par le passé. De plus, il est exaltant de construire, il est pénible de démolir. Verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Les circonstances de la vie nous apportent du bon et du mauvais, des sujets de joie et des malheurs. Le bon est limité par ce qui est mauvais. On ne peut pas retenir ce qui nous donne de la joie, on ne peut pas arrêter le temps sur les bons moments. Les mauvaises passes alternent avec les beaux jours. Verset 5, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Alors les commentateurs s'ingénient à imaginer diverses situations dans lesquelles on doit tour à tour jeter des pierres et en ramasser. Certains pensent à un travail de maçonnerie, mais cette activité a déjà été évoquée au verset précédent, donc il s'agit sans doute d'autre chose. En temps de guerre, on comblait ou on défonçait les champs des populations ennemies et on bouchait les sources d'eau en y jetant des pierres. Tandis que le défrichage d'un champ pour le cultiver s'accompagnait du ramassage des pierres qui pouvaient s'y trouver. Est-ce que le Kohelet se réfère à ces deux activités? C'est possible. Ou peut-être n'avait-il pas nécessairement une situation précise en vue. Quoi qu'il en soit, on a encore ici l'idée que la vie nous conduit à faire des choses contraires les unes aux autres. Il y a un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Notre vie affective rencontre elle aussi des limites. Les circonstances éloignent parfois de nous ceux que nous aimons. Il est bon d'avoir des enfants. Il est d'autant plus douloureux de les voir partir et s'installer à l'étranger, parfois sur un autre continent. Ça peut arriver. Il est bon d'avoir des amis, et ça prend du temps de tisser de réelles et profondes amitiés. Mais les circonstances, un déménagement par exemple, peuvent séparer les meilleurs amis du monde. Là encore, il y a un manque de permanence. Un manque de permanence cette fois dans nos relations avec ceux qui nous sont chers. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il ne faudrait pas nous investir dans nos relations. Il y a bien un temps pour embrasser, pour prendre dans ses bras. Et puis il y a un temps pour chercher et un temps pour considérer comme perdu. Le manque de permanence caractérise aussi les objets auxquels nous tenons. Parfois il faut chercher tel objet égaré, d'autres fois il faut accepter d'avoir perdu. La recherche est pénible. Quoi de plus agaçant que la recherche d'un objet ou d'un papier dont on a un urgent et pressant besoin, mais sur lequel on n'arrive plus à mettre la main? L'acceptation d'avoir perdu, elle aussi, est pénible. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Les choses s'usent, se dégradent, deviennent inutilisables et nous connaissons la frustration de devoir jeter ce qui nous a bien rendu service, parfois sans trouver aussi bien en remplacement. Notre première machine à laver a duré 25 ans. Celle que nous avons achetée en remplacement, je doute qu'elle dure aussi longtemps. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. C'est la même idée appliquée aux vêtements, aux pièces de tissu. Il y a un temps pour coudre un nouvel habit ou pour coudre, pour réparer un vêtement. Et puis un temps où le tissu est trop usé ou endommagé. Manque de permanence, encore une fois. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et peut-être le Kohelet veut-il mettre en avant la difficulté ici de savoir comment agir. Puisqu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, il n'est pas toujours aisé de discerner quand il faut faire l'un et quand il faut faire l'autre. La même remarque vaut d'ailleurs aussi du reste des versets 6 et 7. Il n'est pas toujours ça facile de savoir jusqu'où il faut chercher. Et à partir de quand il faut se dire que l'objet égaré est perdu? Jusqu'à quand il faut garder? Et quand il faut jeter? On ne sait pas toujours si garder sera utile pour l'avenir ou non. J'ai l'habitude de garder beaucoup de choses, et parfois, quand j'en aurai besoin, je ne me souviens plus que j'avais gardé la chose, l'objet, ou je ne sais plus où je l'ai mis. La vie n'est pas simple, parce qu'elle nous conduit à accomplir tour à tour des gestes contraires. Et puis verset 8, il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Le verbe haïr n'a pas nécessairement dans l'Ancien Testament une valeur négative. Il est parfois dit, enfin Dieu est parfois le sujet grammatical de ce verbe. Il est parfois dit que Dieu hait certains hommes, les pécheurs. Psaume 5, verset 6, par exemple. La haine, dans ce cas-là, c'est d'abord la disposition que Dieu adopte à l'égard de ceux qui font le mal. C'est la disposition qui pousse Dieu à châtier selon les exigences de la justice. Et il peut aussi y avoir une haine humaine légitime, semblable à celle de Dieu. David, dans le psaume 139, dit à propos de ceux qui sont en rébellion contre Dieu, « Je les hais d'une parfaite haine ». Cette haine, c'est la disposition que l'on a à l'égard d'un criminel et qui va pousser le roi à sanctionner le mal commis par le criminel. Ou encore, c'est l'attitude que l'on a à l'égard d'un ennemi contre lequel on est en guerre. Les circonstances conduisent parfois à manifester ce genre de haine et à faire la guerre. Et plus généralement, les circonstances nous obligent parfois à faire des choses que nous voudrions ne jamais avoir à faire. Ou des choses, peut-être, dont nous avons eu l'illusion que nous ne les ferions jamais. Il arrive parfois qu'on dise, en voyant quelqu'un accomplir tel acte, il arrive qu'on dise, je ne ferai jamais cela. Et puis, on se trouve plus tard dans des circonstances où on fait précisément la même chose, ou quelque chose de semblable. De nombreux chrétiens ont participé à la dernière guerre mondiale pour défendre notre pays. Ce n'était pas de gaieté de cœur. J'ai un ami qui a été pasteur, qui est à la retraite maintenant, qui a fait la guerre. Et si vous passez dans l'est de la France, par Phalsbourg, vous verrez sur la place de cette ville un char qui date de la dernière guerre mondiale. Eh bien, c'était le char de cet ami pasteur. La vie nous oblige parfois à accomplir des choses qui sont contraires à ce que nous souhaiterions du point de vue d'une éthique idéale. La pratique de la morale s'en trouve alors relativisée. La pratique d'une morale idéale est rendue impossible. Car le bien idéal, c'est-à-dire le bien que nous pourrions accomplir si les circonstances étaient idéales, le bien idéal est inaccessible. Nous n'avons souvent le choix qu'entre plusieurs maux ou entre plusieurs options qui laissent toutes à désirer. Alors bien sûr, ce n'est pas là une excuse pour faire n'importe quoi. Et c'est encore moins un encouragement à faire n'importe quoi. C'est tout simplement le constat d'un drame. Et on a là certainement les affirmations les plus dramatiques de ce texte. On est parfois conduit à faire des choses que nous aurions voulu n'avoir jamais à faire. Alors dans ce poème, des versets 1 à 8, dans ce poème pris dans son ensemble, le temps est senti comme un maître qui nous domine, qui nous apporte du bon pour nous l'enlever ensuite, qui limite le bon et qui apporte parfois le malheur à la place sans que nous y puissions rien. Les bons moments ne durent pas toujours. On ne peut pas arrêter l'horloge du temps sur les bons moments. Mais heureusement, c'est vrai aussi des mauvais moments. Les mauvais moments ne durent pas non plus toujours. Et il faut souligner autant la présence du bon que celle du mauvais. En outre, le temps nous conduit à construire et à réaliser des choses, et c'est peut-être très exaltant, mais aussi à démolir, à nous débarrasser de choses, ce qui est beaucoup moins fructueux, ce qui présente beaucoup moins d'intérêt. L'activité humaine est donc pour partie destructrice et pour partie constructive. On ne peut pas construire sans détruire, souvent. Or, détruire n'est pas rentable en soi, et peut-être dommage de ne pouvoir conserver ce que l'on détruit. Le Qohélète souligne le manque de permanence de nos biens, de nos réalisations. Il faut parfois défaire ce que nous avons fait ou encore pour certaines choses, toujours les recommencer à nouveau. Il faut labourer et semer chaque année pour récolter à nouveau. Il faut toujours faire la vaisselle pour la salir à nouveau. Le Kohelet constate le manque de permanence dans nos relations avec les personnes que nous aimons. Et par-dessus tout, le manque de permanence caractérise notre vie, puisqu'il y a un temps pour mourir. Le temps, les circonstances nous entraînent à faire tantôt une chose, tantôt son contraire. Et cela peut donner à la vie un côté paradoxal, même parfois un goût d'absurdité. Les circonstances sont parfois telles que la morale elle-même s'en trouve relativisée, et tout cela rend difficile de savoir quelle ligne de conduite ou d'action convient en diverses circonstances. Donc le positif est là, mais limité, entravé, assombri par le négatif. Bien des choses sont rendues inutiles. Alors à quoi servent nos réalisations si tout passe? Elles et nous avec? Le manque de permanence des œuvres humaines, la nécessité de détruire, de défaire pour refaire, limite les avantages que l'on retire de son activité. Voilà qui éclaire la conclusion du verset 9. Quel avantage celui qui œuvre retire-t-il de son pénible labeur? Le Kohelet ne veut pas dire qu'il n'y a aucun avantage à retirer de son travail, mais il veut souligner qu'il y en a peu. Il veut surtout souligner que le bénéfice qu'on retire de la peine que l'on se donne reste dérisoire en comparaison avec cette peine qu'on y a mise. Le Kohelet ne s'arrête cependant pas à cette conclusion. Oui, ce constat est vrai. L'avantage que l'on retire de son pénible labeur n'est pas à la hauteur de la peine que l'on s'est donnée. Mais ce constat est encore partiel. Car contrairement à ce qu'il pourrait donner à penser, il y a Dieu. Verset 10. J'ai considéré les activités que Dieu assigne aux humains pour qu'ils s'y occupent. Alors le Kohelet se réfère à cette activité humaine diverse, multiple, complexe, parfois contradictoire dans ses divers aspects, tel qu'il vient de l'évoquer. Mais il affirme que cette activité, avec toute sa diversité, sa complexité, ses aspects paradoxaux, c'est Dieu qui l'assigne, qui les assigne, oui, qui assigne cette activité aux humains. Il n'est donc pas question d'y renoncer, même si le bénéfice qu'on en retire demeure insatisfaisant. Et puis cette remarque du Kohelet implique aussi que les hommes ne sont pas livrés à un hasard aveugle. Nous pouvons nous sentir dominés par le temps, entraînés par les circonstances que nous ne maîtrisons pas. Mais ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas non plus le hasard qui est notre maître. Dieu est le maître. Et il y a là quelque chose d'encourageant et de rassurant. Et de plus, au verset 11, le Kohelet ajoute « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Alors cette nouvelle affirmation n'est pas là pour nier la réalité du mal ou du malheur. Dans l'ensemble de son livre, le Kohelet nous dit assez que tout est décevant, dérisoire, misérable. C'est comme ça que je traduis le terme. Traditionnellement traduit par vanité. En fait, tout est décevant, dérisoire, misérable. Le collègue n'est pas en train de nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je crois qu'il veut nous dire trois choses. La première, c'est que le mal et le malheur ne sont en aucune façon de la faute de Dieu. Dieu, lui, fait toutes choses bonne et belle. La deuxième implication que je tire de ce texte, c'est qu'en face des misères et des souffrances que comporte la condition humaine, en face du mal et du malheur, il y a Dieu qui fait du bien, qui fait toutes choses bonnes et belles. Et Dieu fait cela en son temps, au moment opportun, au moment opportun, pardon, et aussi au moment de son choix. Ce qui veut dire que Dieu est maître du temps. Dieu maîtrise ce temps que nous n'arrivons pas à maîtriser. Il maîtrise l'histoire pour faire du bon, du bien, du beau, en dépit des apparences. Et puis troisièmement, l'affirmation selon laquelle Dieu fait toutes choses belles constitue sans doute un élément de réponse à la question du verset 9. Quel avantage celui qui œuvre retire-t-il de son pénible labeur ? Oui, c'est vrai, l'activité humaine telle qu'elle a été décrite dans le poème du verset 1 à 8 paraît bien dérisoire. Mais Dieu contrôle les circonstances qui contraignent les humains à ces activités souvent peu rentables, parfois contraire, et Dieu sait ce qu'il fait. Aussi, l'histoire a-t-elle un sens, et nos activités ont aussi un sens. Dieu utilise nos activités, aussi dérisoires et si peu rentables soient-elles, Dieu les utilise pour accomplir finalement tout ce qu'il veut de bon et de beau. À ce propos du Qohélète, l'apôtre Paul fait écho lorsqu'il affirme que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Paul dit même « Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime ». Cette affirmation de certitude est aussi un écho de notre texte. Car au verset 14, le Qohélète dira « Je sais aussi que tout ce que Dieu fait durera toujours ». Dans le même texte de Romains 8, Paul affirme que la création a été soumise à une condition misérable, ou selon les traductions plus traditionnelles, elle a été soumise à la vanité. Et ce mot de vanité vient du livre du Qohélète. C'est un mot-clé du Qohélète, vanité des vanités. Des vanités, des dérisoires, des misérables. Comme le Qohélète, Paul affirme à la fois le caractère dérisoire, misérable, frustrant de la condition humaine actuelle, et c'est vrai aussi pour le croyant, et il affirme aussi le caractère bon de l'œuvre divine en notre faveur. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et puis verset 11, le Qohélète continue de plus. Dieu a mis dans leur pensée, littéralement dans leur cœur, la notion de l'éternité. Alors ce texte a parfois été pris comme une affirmation de l'immortalité de l'âme. Je ne crois pas que cela soit son sens. Le cœur, ici, est mentionné, comme bien souvent dans l'Ancien Testament, comme le siège de la pensée. Et donc le sens de cette phrase est sans doute le suivant. Dieu a donné à tout homme une certaine conscience qu'il y a plus que les réalités décrites au verset 1 à 9. Que quelque part il y a de la permanence, de la durée et même l'éternité. En l'homme, peut-être en tout être humain, il y a la conscience qu'il existe beaucoup plus que ce qu'il vit lui-même. La conscience qu'il y a l'éternité. Alors l'éternité nous apparaît comme quelque chose qui nous dépasse et pourtant c'est une notion que nous avons, la notion d'un temps qui ne s'arrête pas, qui s'écoule sans fin. Et j'ouvre une parenthèse, je crois que l'idée qui est parfois avancée selon laquelle l'éternité serait hors du temps, ou Dieu serait hors du temps, n'a pas d'appui biblique. L'éternité, c'est du temps qui s'écoule indéfiniment. Et cette notion que nous avons donc nous donne le sentiment qu'il y a plus que ce que nous vivons dans cette vie présente. C'est vrai sans doute pour tout être humain, au moins comme un peut-être, au moins comme un possible. Bien des religions à travers le monde affirment la subsistance humaine dans un au-delà. Et bien de nos contemporains sont encore prêts à envisager qu'il y ait quelque chose au-delà de la mer, de la mort. Au moins comme un peut-être. C'était le cas du président Mitterrand à la fin de sa vie, qui s'interrogeait sur ce qu'il y a après. Alors pour le croyant, la notion de l'éternité apparaît comme une clé qui donne un sens à sa vie, à son activité sous le soleil, à cette suite de moments contraires, à ses circonstances qu'il ne comprend parfois pas. Il y a un sens à tout cela, en fonction de l'éternité. Et c'est aussi en fonction de l'éternité que l'œuvre de Dieu est bonne et belle, lorsqu'on considère cette œuvre dans son ensemble. Mais le problème que relève aussitôt le Qohélète, c'est que nous avons cette notion de l'éternité sans toutefois, dit-il, que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit depuis le commencement jusqu'à la fin. Le problème, c'est que nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas cette éternité. Nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas tout ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu s'inscrit dans cette éternité qui est inaccessible à notre esprit. Nous manquons de recul pour apprécier les choses. Nous n'avons pas de vue d'ensemble. Et alors nos circonstances, aussi contraires qu'elles puissent paraître, ont un sens lorsqu'on les considère dans l'ensemble qu'est l'éternité. Mais comme nous n'avons pas de perspective d'ensemble, nos circonstances nous apparaissent comme quelques morceaux d'un immense puzzle dont nous ne verrions pas l'image. Nos circonstances sont souvent déroutantes. Leur sens demeure insaisissable. Et nous ne voyons pas que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Bien souvent, nous restons avec nos pourquoi. Pourquoi ceci ou cela m'arrive-t-il ? La notion de l'éternité procure à la fois un encouragement. Elle nous rassure en ce qu'elle implique qu'il y a un sens à nos circonstances. Un sens qui dépasse le simple constat d'absurdité et de dérisoire dressé par les versets 1 à 9. Mais en même temps, cette notion de l'éternité nous frustre, car ce sens reste pour l'instant hors de notre portée. Et parfois, nous restons avec nos pourquoi sans réponse. Alors, quelle conclusion tirer pour notre vie de ce constat ? Quelle exhortation découle de toute cette réflexion ? Versets 12 et 13, « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour les humains hormis se réjouir et se donner du bon temps durant leur vie. Et je sais aussi que lorsqu'un homme mange, boit et se donne du bon temps au milieu de son dur labeur, c'est là un don de Dieu. » Voilà l'exhortation du Qohélète. Une exhortation à jouir de tout ce que la vie peut nous apporter de bon. Alors le bon dont il nous invite à profiter, ce sont les plaisirs tout simples de la vie, y compris les plaisirs matériels, manger, boire. Ça n'exclut évidemment pas d'autres types de plaisirs, intellectuels par exemple, une sorte de loisir, des plaisirs culturels. Les partisans de l'ascétisme n'ont pas lu le livre du Qohélète. Ceux qui ne s'autorisent à songer qu'à la piété ou qu'aux choses dites spirituelles se trompent et s'exposent à un déséquilibre de leur vie et de leur personne. Certes, la piété est d'une importance extrême, la prière, la lecture de la Bible. Mais nous avons aussi besoin de nous faire plaisir, de prendre du temps pour nous adonner à des choses qui nous font plaisir avec ceux que nous aimons. Dieu nous a créés ainsi, avec de tels besoins, et on ne l'ignore pas sans dommage. Cela est un don de Dieu, affirme le Qohélète. Dieu nous donne des petits plaisirs, parfois aussi des grands, pour que nous en jouissions. Nous en priver, c'est passer à côté de dons de Dieu, et c'est nous priver de choses dont nous avons besoin. Alors bien sûr, il y a un danger qui consisterait à vivre pour le plaisir ou à négliger nos responsabilités en vertu, envers les hommes, envers la création. Parfois, il faut accepter de se priver de certaines bonnes choses pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il s'agit de bien placer ses priorités. Mais on aurait tort de refuser totalement les plaisirs que la vie peut nous apporter. Il nous faut vivre pour Dieu et non pas pour le plaisir. Mais vivre pour Dieu, ça comporte aussi recevoir ces petits plaisirs ou ces grands plaisirs que Dieu nous offre. Et on peut noter ici l'opposition entre ce que produit le travail humain et ce que Dieu donne. Le Kohelet affirme qu'on ne retire qu'un piètre profit de son activité, de son travail, de la peine que l'on se donne. Mais il affirme aussi que Dieu donne à l'homme de goûter au bonheur en son travail et grâce à son travail. Au fond, le travail est dérisoire, décevant, parce que l'on n'en retire pas un fruit à la hauteur de la peine que l'on se donne, à cause de la malédiction qui pèse sur le travail. Selon le récit de la Genèse, le sol produit des ronces et des épines. C'est à la sueur de son front que l'on travaille. Mais en même temps, Dieu nous donne quand même de retirer quelque chose de bon de notre travail, malgré cette malédiction. Et c'est là une grâce de sa part. Le livre de la Genèse prévoyait déjà que l'homme tirerait du sol sa subsistance par son travail, malgré la malédiction. Et le Kohelet voit en cela un bonheur. Et donc on a là, en quelque sorte, un autre élément de réponse à la question du verset 9. Oui, quel avantage celui qui œuvre retire-t-il de son pénible labeur? Mais quand même, Dieu donne à l'homme de bonnes choses comme fruit de son travail. Et puis au verset 14, il prolonge sa pensée du verset 11 sur l'œuvre de Dieu. La permanence existe, c'est celle de l'œuvre de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Je sais, c'est une certitude. C'est la certitude de la foi, une certitude qui ne peut venir qu'en prenant appui sur la révélation de Dieu. Il y a là une affirmation qui fait contraste avec le tableau des versets 1 à 8. Seule l'œuvre de Dieu est durable. Elle est aussi complète, parfaite. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et on a là de nouveau de quoi nous encourager et nous rassurer. De quoi aussi nous permettre de vivre l'exhortation à profiter des bonnes choses que la vie nous apporte, en nous reposant sur Dieu et en comptant sur son œuvre. Puisque Dieu fait du bon, du beau, du solide, du durable, du parfait, puisqu'au fond tout est entre ses mains, alors nous pouvons jouir avec une certaine quiétude des plaisirs qu'il nous accorde dans ce monde, ce que nous ne pourrions pas faire si tout reposait sur nos épaules et si nous avions nous-mêmes la responsabilité d'essayer de rebâtir le paradis. Dieu agit ainsi pour qu'on le craigne, dit le Kohelet. En mentionnant l'agir divin, il fait sans doute référence ici d'une part à l'action par laquelle Dieu assigne aux hommes ses occupations diverses, multiples, dont il a été question dans les versets 1 à 8. Et puis aussi, il fait référence à l'action par laquelle Dieu a donné aux hommes la notion de l'éternité. Et Dieu agit envers l'homme pour que les hommes le craignent. Par la manière dont Dieu agit envers les hommes, Dieu les renvoie à leurs limites, aux limites de leurs œuvres et de leur production, tout en leur donnant l'idée qu'il y a plus, l'éternité. Il montre aux humains qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée. L'homme fait des projets, mais ces projets ne se réalisent pas toujours. C'est ce que soulignait Émile Nicole dans la lettre qu'il a écrite. On avait prévu un beau programme pour le week-end GBU, mais voilà, l'être humain n'est pas maître de sa destinée. Et les circonstances nous prennent parfois de court ou contrecarrent nos projets. J'ai assisté ces derniers jours à une pastorale en Suisse, et alors que jeudi après-midi, je rentrais dessus, je suis arrivé chez moi vers 16h, Eh bien, j'ai appris, alors que j'étais encore en route, le décès d'un oncle dont je m'occupe depuis qu'il a perdu son épouse, depuis un an et demi. Et donc, arrivé à la maison, cet oncle n'a pas de famille, n'a pas d'enfant, donc arrivé à la maison, j'ai dû m'atteler aux démarches pour préparer les obsèques. J'avais prévu de me reposer pour venir au week-end aujourd'hui. Une demi-heure après que je sois arrivé à la maison, l'infirmière de la maison de retraite où habite ma maman me téléphone pour me dire que ma maman part aux urgences à l'hôpital et qu'elle va être hospitalisée. Et bien, j'ai dû passer du temps pour gérer toute cette situation, faire les démarches, appeler les membres de la famille. Ça m'a pris jusqu'à une demi-heure avant mon départ, tout à l'heure. C'est là que nous mesurons que nous ne sommes pas maîtres des circonstances, maîtres de ce qui nous arrive. Mais Dieu dispose ainsi les circonstances de la vie humaine pour montrer aux hommes qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée, que l'être humain n'est pas Dieu, qu'il n'est même pas un petit Dieu. Dieu seul est Dieu. L'être humain n'est qu'une créature bien petite, en vérité. Et le Colette l'exprime encore un petit peu plus loin, au chapitre 7 de son livre, au verset 13 et 14. « Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu ? Dieu a tordu bien des choses dans l'existence des hommes. » Et le Colette continue, « Au jour du bonheur, je vis du bonheur. » Et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce que sera son avenir. Dieu dispose les circonstances de la vie des hommes pour leur montrer qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin. Dieu fait en sorte qu'on ne puisse pas savoir ce qui va nous arriver demain. Et ainsi, Dieu remet les humains à leur place devant lui pour qu'ils apprennent à le craindre. La crainte de Dieu, oui, c'est une forme de crainte, mais c'est aussi un profond respect, une attitude de déférence que l'on doit avoir face au Dieu grand, majestueux, transcendant, souverain, ce Dieu qui tient notre être et notre vie dans ses mains, à qui nous devons tout. La crainte de Dieu, c'est aussi la soumission absolue et inconditionnelle que nous devons à celui qui a tous les droits sur nous. C'est la crainte de lui déplaire. S'il y a bien des choses qui sont tordues dans ce monde, c'est parce que Dieu veut apprendre aux hommes qui sont en rébellion contre lui, aux pécheurs, qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée. Mais pour qu'ils apprennent à le craindre, lui. Dieu seul est maître du temps et des circonstances. Ce ne sont donc pas les circonstances qui sont à craindre, c'est Dieu qui est à craindre. Ainsi, la crainte, le respect de Dieu, la soumission à sa volonté, doivent constituer le cadre dans lequel se vit la jouissance à laquelle nous, le Coëlette nous a exhorté, la jouissance des biens de ce monde. Et puis dans la suite du verset 15, le Coëlette ajoute « Oui, Dieu fait revenir ce qui appartient au passé. » Alors le texte hébreu n'est pas très clair, mais l'ensemble du verset 15 semble avoir pour idée principale la même qu'au chapitre 1, verset 9, où le Coëlette disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le temps, l'histoire humaine n'apporte pas la nouveauté, c'est-à-dire la possibilité d'échapper à la condition humaine et à ses vicissitudes. La condition humaine demeure ce qu'elle est. Autrement dit, nous n'allons pas refaire le monde. Nous n'allons pas faire venir le royaume de Dieu maintenant sur la terre. Nous n'allons pas échapper à tout ce que la condition humaine peut avoir de misérable, de dérisoire, de décevant. Mais c'est à l'intérieur de cette condition humaine telle qu'elle est que nous sommes appelés à vivre la jouissance des biens que Dieu nous accorde, à vivre aussi la crainte empreinte de respect et de soumission envers Dieu. Ce n'est pas dans une situation idéale qui restaure d'atteinte que nous sommes appelés à vivre cela. Il n'est pas possible d'échapper à la condition humaine. Il faut donc cultiver le contentement avec les petits plaisirs qu'elle peut nous offrir. Et c'est même Dieu qui fait en sorte que l'homme ne puisse pas échapper à la condition humaine telle qu'elle se présente aujourd'hui. Dieu va rechercher ce qui a disparu, ce qui est passé. Dieu fait en sorte que se produisent toujours les mêmes choses, que les activités ou les événements qui ont été évoqués dans le poème sur le temps, au verset 1 à 8, s'imposent toujours aux humains. Et qu'ainsi la condition humaine demeure toujours identique à elle-même, même si l'habillage culturel est différent. La condition humaine demeure toujours identique à elle-même, sans que l'être humain puisse en sortir. Et Dieu place ainsi l'être humain face à ses limites. Le Qohélète a donc déclaré que Dieu fait toute chose belle en son temps, que son œuvre est parfaite. Et pourtant, le mal est là. Le verset 16 pourrait avoir pour fonction de souligner que si le mal est là, la responsabilité en revient à l'homme et non pas à Dieu. Le Qohélète relève dans ce verset 16 que même les hommes qui sont chargés de faire respecter la justice font le mal. Au tribunal, là où l'on devrait rendre la justice à ceux qui ont été lésés, règne l'iniquité ou le crime. C'est un autre sens possible du mot hébreu. J'ai encore constaté que sous le soleil, l'iniquité ou le crime règne au tribunal. Au tribunal, là où l'on devrait rendre la justice, règne l'injustice. Alors si ceux qui sont chargés d'administrer la justice font le mal, il ne faut pas s'étonner si le mal est partout. Mais alors que fait Dieu ? Pourquoi laisse-t-il le mal s'installer chez les humains ? Peut-on encore croire que Dieu fait toute chose belle alors qu'il n'intervient pas contre les injustices ? Le Qohélète fournit un élément de réponse à cette question. Si pour le présent, le mal est partout chez les hommes, un jour, Dieu rétablira la situation. Un jour, Dieu réinstaurera la justice, mais il le fera en son temps, verset 17. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant. Car en ce qui concerne le jugement, il y a un temps pour toute affaire et pour tout acte. De quel jugement s'agit-il ? Quand a-t-il lieu ? S'agit-il d'un jugement qui intervient dans la vie présente ? Peut-être parce que Dieu fait justice de façon partielle déjà dans le présent. Et quand ils le jugent bon en son temps. Mais ça paraît peu vraisemblable. Le Qohélète vient de peindre la situation présente comme un règne d'injustice au verset 16. Et même un peu plus loin, au chapitre 8, il soulignera qu'il est des méchants qui connaissent le sort que devraient connaître des justes et des justes qui connaissent le sort que devraient connaître des méchants. Le Qohélète est donc suffisamment lucide pour ne pas attendre l'avènement d'une justice pleine, entière, pour le présent. Le propos du verset 17 doit avoir une portée eschatologique. Dieu rétablira pleinement la justice en exerçant ses jugements à la fin des temps. Il y a un temps de Dieu pour cela, car Dieu est le maître du temps. Cette réflexion sur le jugement à venir rejoint alors la perspective de l'éternité. Aujourd'hui, nous constatons le désordre, mais un jour, Dieu rétablira l'ordre. Et ainsi, lorsque Dieu exercera son jugement en son temps, on verra, à la lumière du grand dénouement, que même si le mal règne aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, du début à sa fin, est parfaite. On verra que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dans ce texte, comme d'ailleurs dans l'ensemble de son livre, le Qohélète a relativisé l'importance de la valeur de nos entreprises en ce monde. Il souligne plus particulièrement le manque de permanence qui s'attache à nos réalisations, les incertitudes qui pèsent sur ce qu'il convient de faire en telle ou telle circonstance, l'impossibilité d'atteindre l'idéal. Seul Dieu fait toute chose belle, parfaite, complète, achevée. Mais en notant cela, le Qohélète nous délivre du poids de la responsabilité impossible à assumer, la responsabilité de changer le monde et de faire venir le paradis sur terre. Il nous enseigne ainsi à nous garder de l'ascétisme ou de l'activisme. Il veut nous libérer de la recherche de la rentabilité maximum pour laquelle nous sacrifierions tout le reste. Il nous invite à accomplir nos activités, à assumer nos responsabilités, mais aussi à savoir nous arrêter pour jouir des petites bonnes choses et des petits plaisirs que Dieu nous accorde. Mon activité, et même mon ministère, si je suis dans le ministère, n'est pas si importante que cela au point que je devrais y sacrifier toute jouissance des petits plaisirs que Dieu m'accorde. En fait, mes réalisations seront toujours en deçà de ce qu'elles devraient être, et elles ne dureront pas pour la plupart. Leur valeur demeurera toujours relative. Et en même temps, nos réalisations ne sont pas inutiles, car elles s'inscrivent dans le cadre de l'œuvre belle que Dieu accomplit. Dieu intègre nos réalisations à son projet. Nos réalisations constituent ainsi quelques pièces de cet immense puzzle qui apparaîtra un jour dans l'éternité. Alors l'art de vivre, selon le Qohélète, consiste à attribuer sa juste place à chaque chose, à chaque activité, à chaque entreprise, ainsi qu'à chaque plaisir et à chaque loisir. Et parmi les bonnes choses que Dieu accorde, et bien, peut-il y avoir les week-ends GBU. Alors profitez-en bien, en vous souvenant que Dieu fait de nos circonstances ce qu'elles sont, pour que nous apprenions à le craindre, qu'il nous y aide.